Bon, ben bonjour!
Je pense que je suis une minute d'avance, mais c'est correct. En attendant que tout le monde rentre, s'il y en a d'autres qui arrivent, on va commencer à faire le tour des présentations un petit peu. Donc, je vais être brave, je vais me présenter en premier. André Riendeau, je peux me présenter de bien des façons, mais je pense que dans le cadre de cet atelier-ci, je suis un survivant de l'école à la maison. Donc, mes parents m'ont éduqué à la maison. Moi et mes deux frères, qui sont plus vieux que moi, on s'en est tous sortis. Donc, c'est quand même bien. Et je suis maintenant papa de 4 enfants. 7, 9, 10, 12. Puis, on fait l'école à la maison avec eux depuis le début, là. Professionnellement, je suis infirmier clinicien en santé mentale, je suis spécialisé en pédopsychiatrie. Donc, mon historique professionnel fait que j'ai aussi vu tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas au niveau du système public. Présentement, je suis à l'hôpital juif. C'est un peu ironique, mais je travaille dans un programme scolaire. Donc, le Jewish a une école pour les jeunes qui n'arrivent pas à fonctionner à l'école, soit parce que leur trouble, bref, ils ont des troubles qui font qu'ils ne sont pas capables d'intégrer une école ou une classe normale. Je vais me tasser un peu parce que j'ai l'impression. Le programme, si vous connaissez un peu la dynamique des commissions, il n'y a pas de problème, je viens juste de débuter, on est dans les introductions. Si vous connaissez un petit peu la dynamique commission scolaire francophone, anglophone au Québec, les commissions scolaires francophones ont plus ce qu'on appelle une politique d'inclusion. Donc, s'il y a un enfant qui a des besoins spéciaux, ils vont le laisser dans une classe régulière et théoriquement lui fournir l'aide qu'il a besoin. Donc, c'est le principe est là. Est-ce que dans la pratique, ça se produit comme ça? Ça, c'est une toute autre histoire, mais c'est pas le but de l'atelier. Alors que dans les commissions scolaires anglophones, on a des écoles spécialisées, des classes spécialisées, et le Jewish, le Douglas, il y a certains instituts comme ça qui ont des programmes en collaboration avec les commissions scolaires. Donc nous, on a des enseignants de la commission scolaire et le personnel hospitalier qu'on travaille avec les enfants là, sur une base scolaire. Donc, comme je dirais, dans ma vie personnelle, j'ai vécu l'école maison, je le fais vivre à mes enfants. J'étais président de l'ACPEC pendant quelques années, donc je l'ai vu vivre, ça fait plusieurs années que je suis quand même dans le milieu, donc à travailler avec d'autres familles, à le voir. Et professionnellement, bien, je vois un peu les deux. Ce qui est étonnant dans le système public, qu'on fait l'école à la maison aussi, hein, les enfants qu'on n'arrive pas à scolariser nulle part, on dit aux parents « faites l'école à la maison ». Et les commissions scolaires vont fournir quelques heures de tutorat, etc. Donc, c'est pas une notion qui est inconnue même dans le système public. C'est nébuleux un peu pourquoi on trouve que c'est acceptable pour certains et pas pour d'autres. Mais, donc, ça, c'est mon arrière-plan.
Pourquoi tu as dit survivant? Pour moi, c'est péjoratif et négatif de dire « je suis un survivant de l'école ».
Ben oui. Tu vois, ça t'amène à te questionner, en fait, c'est bon. On va en parler dans l'atelier. Je vais revenir. C'est bon, ça t'a piqué. J'aime ça. On va faire le tour, mais si je l'oublie, reviens-moi, mais je vais y revenir. Je vais vous dire d'emblée, attendez-vous pas à ce que je vous donne toutes les réponses et est-ce que vous partiez d'ici avec une recette tout faite? C'est un, même si je vous parlais pendant 3 mois, j'en viendrai pas à bout, certainement pas dans 1 heure. Sentez-vous libre de poser des questions. Je vais essayer de qu'on se laisse du temps à la fin, mais si au fur et à mesure que je parle, il y a quelque chose, gênez-vous pas, levez la main. Je veux que ça soit un peu interactif. Ça, c'est souvent la manière dont on regarde l'école à la maison. C'est positif ou c'est négatif? Puis, si vous êtes des parents qui êtes en train de le faire ou qui songeaient à le faire ou des gens qui l'avaient fait un peu, on a souvent une vision un peu polarisée, c'est-à-dire je regarde les positifs, les négatifs, je regarde le système scolaire, les positifs, les négatifs, etc. Puis là, on fait des listes et puis on se retrouve à essayer d'équilibrer ça. Je le ferai pas avec vous parce que ça va être long pour rien. Qui se débrouille un peu en anglais? La majorité, bon, Je vais venir à ce que tu as parlé. Moi, j'ai grandi, j'ai 39 ans, donc on parle de une trentaine d'années. Au Québec, très peu d'écoles à la maison. Même j'en parlais avec mon père la semaine dernière, à comment ça a changé le portrait partout en Amérique d'ailleurs, mais ici encore pire. Où moi, je connaissais deux autres familles au Québec avec qui on les voyait une fois par année parce qu'on n'habitait pas près, etc. Donc le support était très, très, très limité. Et bon, on a fait le programme, j'ai voyagé un peu aux États-Unis, j'ai rencontré d'autres familles. Et là, dans les dernières années, surtout depuis que je suis impliqué à l'APEC, puis avec Facebook, je retourne, puis je vais me connecter avec des gens comme ça, et je tombe-tu pas sur le nom du programme que j'ai fait, Survivors. Je suis comme, OK, c'est quoi? Fait que je m'abonne à la page, et là, je commence à retrouver plein d'amis et à lire ce que les gens écrivent, et je me bon, c'était pas une notion qui m'était étrangère, mais de revoir des gens avec qui j'avais gravité, qui comme adultes maintiennent une perception très très négative de leur expérience à l'école, à la maison, comme si ça a été une blessure dans leur vie ou quelque chose. Puis j'en lis d'autres, puis c'est un peu, tu sais, du back and forth sur le forum de « Ah, ben là, on était par exemple à telle place en même temps, dans tel programme, puis on rapporte les mêmes faits, mais avec une perception complètement différente, où pour un, c'est positif, pour l'autre, oh, moi, c'était une sexe, c'était ci, c'était ça, c'est pratiquement de l'abus de faire l'école à la maison, puis tu vois à quel point c'est polarisé. » Et même chose, dans le cercle d'école à la maison, on a la même polarisation où tout est beau, tout est rose, tout est parfait, puis tout ce qui est le système public, ça vient de l'enfer, ça vient du diable, je vous présente les deux extrêmes et un peu tout ce qui se retrouve dans le milieu. Allez sur Google, là, puis tapez avantage, ben, plus en anglais, vous allez trouver plus de résultats en anglais, là, mais si vous tapez advantage and disadvantages of homeschooling, des choses comme ça, vous allez voir toute une liste de résultats, et certains sont écrits par des gens éduqués qui vous présentent des positions qui ont de l'allure, d'autres par des gens comme moi qui l'ont fait, qui l'ont vécu, qui le font avec leurs enfants, d'autres qui vont vous présenter, moi je l'ai fait, j'ai mal vécu, ou des professeurs d'école, des éducateurs qui... Un peu tout ce que vous avez à lire a une partie de vérité dedans et une partie de mensonge. Mais prenez 5 minutes pour le faire ou 10 minutes, c'est quand même intéressant. Ce que je veux, et vous allez voir ce que je veux dire par la polarisation, et s'il y a une chose que je veux que vous ressortiez aujourd'hui, c'est de le voir un peu différemment, qu'on change cette façon-là de regarder l'école à la maison ou l'école publique. Ce qu'on se retrouve à faire comme parents dans notre perspective, dans ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les plus, les moins, puis là, on essaye de balancer ça, puis d'équilibrer ça, puis je suis pas sûr que c'est la bonne approche. Je reviens avec mes signes de plus et de moins. Je le ferai pas avec vous parce qu'on n'a pas assez de temps, mais faites-le à la maison. Repartez avec cet atelier-là. Vous allez voir, il y a un peu de suite dans mes idées. Voyez-le par qu'est-ce que j'ajoute et qu'est-ce que j'enlève. Okay? Si je fais l'école à la maison, qu'est-ce que je m'ajoute? Donc, qu'est-ce que ça ajoute à ma vie ou à ma famille et qu'est-ce que ça l'enlève? Par exemple, moi, je pars pour travailler le matin, je vois tous les petits-enfants du voisinage à 6h30 qui sont sur le bord de la rue puis qui attendent l'autobus. Moi, je viens de m'enlever ça à la maison. OK? Donc, voyez-le pas par une liste de positifs et de négatifs. C'est pas du tout du positif et du négatif. C'est qu'est-ce que j'ajoute et qu'est-ce que j'enlève. OK, si j'envoie mon enfant à l'école, il y a un programme tout fait. Si je le fais à la maison, il faut que je décide du programme. Je viens de m'ajouter ça. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est positif, c'est négatif? Là n'est pas la question. C'est juste de regarder la réalité en face. Okay? Qu'est-ce que je m'ajoute? Qu'est-ce que je m'enlève? Puis avoir un portrait qui est réaliste, qui n'est pas nécessairement polarisé entre le ciel et l'enfer, le bien, le mal. Il peut avoir de ça aussi, là, mais on veut changer cette perspective-là un petit peu, puis cette approche à évaluer qu'est-ce qu'on fait comme parent, puis qu'est-ce qu'on fait dans l'école à la maison. Vous pouvez changer les mots aussi, par exemple, qu'est-ce que je m'enlève ou qu'est-ce que j'évite? OK, si je fais l'école à la maison, bien, j'évite... jusqu'à un certain point, les risques que mon enfant soit intimidé. Bon, OK, des fois, mon plus vieux intimide ma plus jeune, mais je suis capable de le régler assez bien. Non, mais c'est la réalité. La dynamique entre nos enfants n'est pas parfaite. Il ne faut pas se mentir non plus. Hein? Nos enfants, pas parce que c'est les nôtres qui sont parfaits, du moins les miens, ils ne sont pas. On peut avoir une dynamique à gérer à la maison, mais on s'entend que l'intensité de l'intimidation de vos enfants, on n'ira pas chercher les mêmes degrés qu'à l'école. OK? Qu'est-ce que je m'ajoute? Je m'ajoute la capacité de choisir, je m'ajoute la capacité de connaître avec qui mes enfants interagissent, la capacité de choisir mon horaire, où je m'enlève le stress d'être pris dans une boîte de telle heure, tel jour, etc. Donc ça, c'est un exercice là, que faites-les vraiment par qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce que j'enlève. OK, je m'enlève en le faisant maison. J'enlève le gym, j'enlève le lab de biologie, j'enlève les programmes parascolaires gratuits. C'est une réalité. Puis pourquoi c'est important de la saisir, cette réalité-là, je vais y revenir. Mais l'exercice, il est super intéressant. Faites-le surtout si vous êtes capable de le faire avec votre conjoint. Les pères, souvent, on est un peu plus en retrait. On est moins impliqué dans le journalier. Pour la majorité des familles, il y en a que c'est l'inverse, mais je généralise. Ce qui est intéressant, parce que des fois, ça nous donne une perspective un petit peu différente. Moi, je me rends compte que j'ai eu un petit congé de maladie dernièrement. J'ai été un mois à la maison, puis juste d'être là à chaque jour, ça change ma perspective. Mais en même temps, il y a des choses que je vois moins en étant à la maison, parce que j'ai le nez dedans aussi. Donc, je pense qu'il y a, une alliance intéressante entre les parents et la distance qu'on peut prendre. Donc, c'est un exercice que je garde. Asseyez-vous avec votre mari, votre femme, faites-le ensemble, vous allez en tirer quelque chose d'intéressant. C'est pas un coup de dé. Être parent, faire l'école, que ce soit l'école à la maison ou de les envoyer à l'école publique, c'est pas un coup de dé où « Ah, ben parce que je fais ça, ça va arriver ». Si vous laissez les choses au hasard, vous allez avoir un résultat au hasard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de garantie ni d'un côté ni de l'autre. Les attentes qu'on se fait, donc l'idée que parce que je fais l'école à la maison, ça va me donner tel résultat. Il n'y a pas d'argent garanti, satisfaction, etc. Il n'y a pas cette politique-là et il ne l'a pas par rapport à l'école non plus. Okay, donc, je compare un peu les deux parce que c'est la réalité dans laquelle on vit, puis c'est les choix qui s'offrent à nous comme parents. C'est-à-dire que lorsqu'on pèse quelque chose, on pèse « je fais l'école à la maison, je les envoie à l'école ». Bon, on s'entend que dans le système, on peut avoir plusieurs choix, école spécialisée, publique, privée, alternative, etc., mais quand même… Je peux pas dire, OK, j'ai lu telle recherche, ça dit que les enfants qui font l'école à la maison, ils sortent comme ça. Donc, si je fais l'école à la maison, carefree, je vais avoir tel résultat. On n'est pas d'une chaîne de production où tu mets un produit brut au départ, puis parce que tu le fais, ça sort comme ça à la fin. Même chose au niveau de l'école publique. Je pense que c'est un peu ce que tu partageais, où tu t'attends à quelque chose et oups! C'est pas exactement ça qui se passe. Et ça peut être vrai autant d'un côté que de l'autre. OK? Moi, j'ai des gens avec qui j'ai fait l'école à la maison que ça a été un désastre. Mais un désastre à long terme où ils n'ont pas fini leur secondaire, ils n'ont pas... Tout ce que vous lisez de négatif sur l'école à la maison, je connais des gens pour qui c'est vrai. Que ça n'a pas bien été, que la relation entre frères et sœurs a tourné au pire, qu'avec les parents, ça a tourné au pire, etc. Est-ce que c'est la faute de l'école à la maison? Non, pas du tout. Ça, c'est le même principe que ce qu'on voit un peu dans notre philosophie au Québec où moi, je fais l'école chez moi. Si j'ai un enfant qui est un an en arrière puis qui se fait évaluer par la commission scolaire, c'est parce que je fais l'école à la maison qui est un an en arrière. OK? On va tout de suite... prendre l'effet, la cause. Ah, il est en arrière, c'est parce qu'il fait l'école à la maison. Je l'envoie à l'école, il va être encore un an en arrière. Ah, mais là, c'est parce qu'il y a un trouble d'apprentissage. OK? Donc, l'enfant qui est à l'école, lui, il a le droit d'avoir un trouble d'apprentissage, puis il est en arrière à cause de ses difficultés. Mais si moi, je le fais à la maison, il est en arrière parce que je suis à la maison. Bon. Comme je vous dis, ni d'un sens ni dans l'autre, ces automatismes-là sont faux. Ils sont tous faux. Autant par rapport à l'école à la maison que par rapport au système public. OK? Je vais vous dire le terme en anglais parce que J'ai beau chercher, mais je ne l'ai pas trouvé en français. Donc, si vous voulez vraiment voir un peu « intentional parenting », allez chercher ça sur Google, si je le traduis, parce qu'il y a des livres qui sont écrits qui ont ce titre-là. C'est un peu comme l'intelligence émotionnelle, c'est des termes clés un peu. « intentional parenting ». Mais tu sais, si tu mets « parenté » de façon intentionnelle, ça ne te donnera pas grand-chose. En bout de ligne, ça veut dire d'être conscient, d'être vraiment intentionnel dans ce qu'on fait comme parent. De ne pas laisser les choses au hasard, d'être conscient de ce qu'on fait puis de prendre des choix en toute connaissance de cause. OK. Appelle-moi ton nom.
Alexandre.
Alexandre, je te demande de choisir la pomme ou le gâteau de chocolat.
La pomme.
OK. Est-ce qu'Alexandre fait un choix ou deux choix, là?
Peut-être même cinq.
Effectivement, tu pourrais manger la pomme et dire « Tiens, j'ai mangé la pomme, je peux avoir le gâteau. » Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas manger juste un des deux. Tu as choisi la pomme. Donc, est-ce que tu as fait un choix ou deux choix ou plus? Bien... Tu peux avoir eu une réflexion de dire « Ah, ben là, je fais le choix d'être en santé, je fais le choix de ne pas engraisser, je fais le choix de ne pas faire monter mon insuline, etc. » Mais plus simple que ça, là, concrètement, en choisissant la pomme, tu as fait le choix de renoncer au gâteau. Donc, tu as fait deux choix. En choisissant de faire l'école à la maison, on choisit de renoncer à d'autres choses. OK? Donc, si vous revenez à ça ici, là, ce que j'ajoute ou ce que j'enlève... Il va en avoir des deux côtés. Okay? Tu fais un choix, je te force de choisir la pomme ou le gâteau. Tu as vraiment fait deux choix. En choisissant un, tu choisis de renoncer à quelque chose d'autre. Donc, moi, je choisis de faire l'école à la maison. Donc, je renonce à certaines choses qui pourraient être disponibles à l'école. Ou je choisis d'envoyer mon enfant à l'école, je renonce à certains avantages de l'école à la maison et vice-versa. Et un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas un choix qui peut être 100% blanc et noir où il n'y a que des avantages et que des désavantages. La question, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai. Et ce n'est pas nécessairement de... J'ai bien aimé ceux qui je pense que toi et moi, au moins vous deux, que... initialement, faire l'école à la maison, ça ne faisait pas partie des options. Puis là, tout à coup, bon, tu te sens pour une raison quelconque poussé dans cette direction-là et tu fais le choix. À partir du moment où tu fais le choix, tu n'as pas nécessairement fait le choix en fonction d'une liste de pour et de contre. La plupart des gens ne le font pas comme ça. C'est une conviction, c'est des circonstances de vie. J'ai rencontré très, très peu de gens qui ont pris le choix ou la décision d'école à la maison basée sur une liste de pour et de contre. La réalité est tout autre, c'est que soit on déménage, on s'en va en mission, on s'en va travailler quelque part. Déjà, moi, j'avais beaucoup d'amis en grandissant, que les parents étaient militaires, donc le choix s'imposait pour des circonstances de vie, etc. Donc après ça, une fois que le choix est fait, c'est plus de regarder la réalité en face et de comprendre les défis et comment y faire face. Ça nous ressemble un peu des fois. On essaye d'être tout. Hein? On fait à manger, le bébé pleure, le chien court, l'ordi est à terre, le gâteau est renversé, on parle au téléphone, puis bon. Il manquait juste que la bouteille de ketchup soit inversée avec le téléphone finalement à sa photo, mais je suis sûr que ça s'en vient. La réalité, c'est qu'on peut pas tout faire. Et mon expérience comme parent aujourd'hui, et comme enfant qui a vécu l'école à la maison, je parle beaucoup avec mes parents. Mon père est rendu à 74 ans, puis je trouve ça intéressant de tu sais, qu'on s'assoit ensemble puis qu'on regarde ce qu'ils ont fait avec nous, puis là, ce qu'on fait avec nos enfants. J'ai une très belle relation avec mes parents, et c'est le fun. C'est le fun de ah, ben OK. Et une des erreurs que j'essaie d'éviter comme parent, qui n'est pas facile, et que en regardant à ma vie d'enfant avec mes parents, les moments difficiles, ça a été ces moments-là. Les moments où tu essaies de tout faire, OK? Et ce qui se passe dans ce temps-là, c'est un peu ça. Et ça, c'est un écueil à éviter. On n'est pas capable d'arriver à tout faire. Et l'expression, là, tu cours après deux lapins, tu finis par en attraper aucun. Ceux qui réussissent bien, que ce soit à l'école à la maison ou à l'école publique, parce qu'on ne se le cachera pas, il y en a qui, des gens qui ont réussi très, très bien à l'école publique aussi. Il ne faut pas s'imaginer que parce que ton enfant va à l'école publique ou parce qu'à un moment donné, vous faites ce choix-là ou vous l'avez fait, c'est pas, je reviens à ce que j'ai dit au départ, il n'y a pas de cause à effet 100% automatique là-dedans. Là. Okay? Mais il y a des pistes. Ça, c'en est définitivement une. Je reviens à ça ici. Si, par exemple, j'ai en faisant l'école à la maison, bon, ben je perds le gym, je perds le parascolaire, je perds le lab de bio, je perds ci, je perds ça. Et là, écoute, faudrait que j'aie tout ça. Donc, je me trouve une façon de venir l'ajouter. Je m'ajoute des cours de ci, des cours de ça, le gym, je fais venir... je viens de m'ajouter le stress, je viens de m'ajouter la pression. Donc, tu sais, quand je disais, je m'enlève de la pression en faisant de l'école maison, je m'ajoute la flexibilité d'horaire, j'enlève les devoirs, parce qu'en général, une fois que notre journée d'école est faite, nous avons appris ce qu'il y avait à apprendre, il n'y a pas de devoirs, mon temps en soirée. Mais là, si mes soirées, j'ai rempli avec d'autres choses, bien, je viens de perdre certains des avantages. Donc, on ne peut pas juste dire « je regarde l'école à la maison puis j'englobe tout là-dedans ». Soyez analytique à regarder « ok, qu'est-ce que je suis prêt à ajouter, qu'est-ce que je suis prêt à soustraire et c'est quoi le coût ?»
C'est l'éducation des enfants, ça.
C'est le « intentional parenting ». Là, mes parents, je me souviens qu'en grandissant, une des conférences qu'on allait... Un des conférenciers disait, ça revenait souvent, c'était faire l'éducation à la maison, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est pas du 9 à 3, c'est un mode de vie. Et si on le voit comme ça, ça fait beaucoup. Moi, mon père est pasteur, c'est sûr que ça, il y avait les défis là-dedans, mais ça lui donnait une certaine flexibilité qui fitait très, très bien avec l'école à la maison. Puis... Il disait toujours ça, il disait, bon, mais regarde, nous, c'est comme ça qu'on vit. Fait que des fois, ma mère, les maths rendus en secondaire 3-4, oublie ça, on n'en venait pas à bout. Bien, mon père pouvait aller faire le matin, le soir, l'après-midi avec nous, c'était pas important. Ça fitait dans notre vie, dans notre horaire. L'important, c'est qu'en bout de ligne, on ait appris, etc. Et ça, je vous dirais, c'est plus un... Ça va s'appliquer peu importe ce qu'on fait comme choix. Comportement versus caractère. OK? Je vais juste garder un œil sur l'heure pour être sûr que... Votre horaire dit quoi? Dit qu'on a jusqu'à... 3h15? OK, parfait. Je veux qu'on se laisse le temps pour dialoguer un peu. Une des choses qui est très, très, très facile dans notre vie de parent... versus caractère. Okay? Et comme je vous dis, je ne peux pas être super exhaustif là, dans le temps qu'on a. Fait que je vous donne des piliers que pour moi qui ressortent de ce que j'ai eu comme expérience et que je le vois dans ma vie d'adulte. Je travaille avec des professionnels qu'on a tous le même diplôme d'accroché sur le mur. Okay? Un médecin, c'est un médecin, un infirmier, un psychologue, c'est un psychologue, on a tous les mêmes diplômes, etc. Pourquoi qu'il y en a un que je veux mettre dehors puis l'autre que je veux garder? La différence est dans le caractère. Okay? Il n'y a pas dans la cravate. Le comportement est le même. Et comme parent, c'est super facile de focusser sur le comportement. Parce que nos attentes sont très, très, très comportementales. C'est quoi mes attentes comme parent? Lève-toi le matin, habille-toi, déjeune sans jeter ta bouffe à terre. Après ça, assis-toi, rouvre ton livre de maths. Écoute quand je te parle. Parle pas en même temps que l'autre. Frappe pas l'autre. Pensez à tout ce que vous dites à vos enfants dans une journée, là. C'est très, très, très comportemental. C'est correct. Il faut qu'ils apprennent. Pensez à votre enfant assis à l'école. Un professeur dans une classe, les attentes sont principalement... comportemental. Assis-toi, écoute, bouge pas, parle pas, lève ta main avant de parler, attends pour aller à la récré. Donc, le focus est très, très, très comportemental. Mais en bout de ligne, moi, je peux inhiber un comportement chez moi sans en inhiber la cause. je peux démontrer un bon comportement sans avoir le caractère qui devrait être le fondement de ce comportement-là. Et ça, c'est une clé que, écoute, c'est pas facile à identifier chez nos enfants, mais déjà d'en être conscient puis de voir nos enfants comme ça, c'est super important. Vous allez faire le lien avec ce que j'ai dit au départ, qu'il n'y a pas d'automatisme. Le fait de faire l'école à la maison ne garantit pas un résultat. Ce qui va vous garantir le résultat est beaucoup plus relié au caractère de l'enfant qu'au comportement. Okay? Et je m'explique. J'ai un enfant qui aime faire des graffitis. Spray paint, trip au bout, et il regarde des vidéos sur YouTube, etc. Donc là, moi, comme parent craintif que je suis, je me dis, je l'enverrai pas à l'école parce que si je l'envoie à l'école, il va tomber dans la mauvaise gang, il va se trouver une cacane de peinture, il va aller faire un graffiti sur une bâtisse, puis il va se faire arrêter. Bon, OK, je mets le scénario au pire. Donc, je vais le garder à la maison, et en le gardant à la maison, je vais éviter le comportement. OK. Je caricaturise, mais je suis pas loin de la réalité. Donc, il y a deux semaines, j'arrive chez nous, puis j'ai un graffiti sur le mur de ma maison. Ah, c'est une vraie histoire, là. Parce que c'est ma fille puis mon gars, OK? Parce que le fait que j'ai inhibé le comportement, j'ai pas changé l'attitude. Le drive, il est encore là. J'ai changé le contexte, c'est tout. Donc, c'est quoi qu'il faut que je travaille? Est-ce que c'est le comportement? Non, il faut que je barre ma remise, pas qu'il y ait sa peinture, je le sais, j'ai compris. Mais, ultimement, le fait de changer un contexte ne change pas automatiquement le caractère qui est en arrière. Et ça, c'est peut-être une des choses, autant d'un bord comme de l'autre, si tu veux expliquer un enfant qui va avoir du succès à l'école ou un enfant qui va avoir du succès à la maison, ou l'échec, peu importe, c'est beaucoup plus relié dans ça et dans comment vous avez travaillé le caractère de votre enfant. Est-ce que je peux changer la personnalité de mon enfant? Ah, parlez à vos parents, demandez-leur, vous ressemblez à quoi? 3 ans, 6 ans, 12 ans, 15 ans, puis aujourd'hui, les différences sont négligeables. Par contre, le caractère, ça se travaille. Les traits de caractère, je vous donne l'exemple très, très complet, concret. Je ne peux pas changer le fait que je suis colérique ou non. Il y a des gens qui sont colériques, puis il y a des gens qui ne le sont pas, en partant. Okay? Ou je vais aller à côté de toi, je vais te piler sa grosse tête. Je vais aller à côté de toi, je vais te piler sa grosse tête. Même geste, réaction va être différente. OK, tu ne peux pas vraiment changer ça. Ce que tu peux changer, par contre, c'est comment tu la vis, ta colère, comment tu la travailles. Ça, c'est au niveau du caractère. Et ça, notre rôle comme parent, il est énorme. Et je vous dirais, moi, je travaille, un des programmes là, que je vous disais, où je travaille au Jewish, c'est des classes de 7. Il y a 7 enfants par classe. Un professeur, un éducateur. Le ratio de personnel par enfant est hyper élevé. Ça ressemble beaucoup à l'école à la maison. OK? Professeurs, la plupart, je vous dirais, ne croient pas vraiment à donner des devoirs, enseignent tout de façon alternative avec un programme qui est spécifique à l'enfant. Puis le but, c'est de guérir l'enfant, si on veut, là, de le ramener à un point où il est capable d'intégrer l'école, où il est capable de fonctionner à la maison, etc. On ne change pas la personnalité de l'enfant. Mais on va lui donner des outils pour travailler sur lui, on va travailler sur le caractère, etc. Ultimement, en bout de ligne, c'est tout ce qu'on peut faire avec nos enfants. Si on passe à côté de ça, moi, je peux focusser sur le comportement de mon enfant, tant à la maison qu'à l'école pendant 10 ans, puis en bout de ligne, mon enfant va se rebeller, etc. Qui sont allés à la dernière plénière avec Norm? Ceux qui
celle-là juste ce matin, avant le dîner?
Non, celle cet après-midi, son atelier sur les fils, les mamans avec les fils. Quand même intéressant, où c'est un petit peu ce qu'il décrit aussi, où tu dis, bon, il y a des choses que tu n'auras pas le choix de faire face, puis ça ne sera pas nécessairement facile. Mais si on se limite au niveau du comportement, ça va toujours être comme ça. Ça, c'est un défi. Et c'est un défi, peu importe les choix qu'on fait comme parents. La semaine dernière, ma fille, qui a 12 ans, écoute, c'est le fun, un enfant qui vieillit, mais il commence à réfléchir bien trop à mon goût. Parce que là, ils posent des vraies questions. Tu vois qu'ils réfléchissent à des choses. Fait que là, puis elle parle beaucoup, même, ma plus vieille. Elle parle depuis qu'elle est super petite, puis en vieillissant, ça ne s'améliore pas. Fait que là, elle vient me voir, elle dit, « Papa, elle dit, quand tu avais 12 ans, tu t'imaginais que tu deviendrais quelle sorte de parent? » Fait que là, je suis comme, « Oups, I'm in trouble, là. Qu'est-ce, je le sais que c'est pas la vraie question, hein? » Il y a quelque chose en arrière qu'elle pense. Fait, écoute, à 12 ans, je suis un gars. Je suis encore un gars, là, mais à 12 ans, je suis un gars de 12 ans. Je pensais pas trop à quel genre de parent je viendrais. À 15-16 ans, peut-être. Là, à 12 ans, pas trop. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, dis-moi, là, je vais être un bien meilleur parent que toi. Ah, OK. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Ben, tu sais, je vois les erreurs que tu fais. Moi, je referais pas les mêmes erreurs. Ben, je dis, t'as raison. Moi, aujourd'hui, j'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs que mes parents. Puis il y a beaucoup des erreurs que mes parents ont fait que je ne fais pas. Mais sais-tu quoi? Je fais mes propres erreurs. Puis toi, tu ne feras probablement pas les mêmes erreurs que moi, mais tu vas faire tes propres erreurs à toi aussi. Et je vous donne cette perspective-là comme quelqu'un qui a vécu l'école à la maison, qui le vit. J'en parle avec mes frères, j'en parle avec mes parents. Ça, là, c'est l'image du regret. OK? Est-ce que j'ai des regrets? Okay? Puis c'est une question rhétorique. Je retourne en arrière et je me dis, bon, si j'avais été à l'école, je ressemblerais à quoi? Bien, si tu avais mangé le gâteau au chocolat, tu ne savais pas que tu as mangé la pomme. Je ne saurais jamais à quoi je ressemblerais si j'étais allé à l'école, parce que je ne suis pas allé à l'école. J'ai rencontré Stéphanie, ma femme, j'avais 16 ans, elle avait 15 ans. Elle est retournée à la maison, on a été des bons amis pendant des années. Donc, à cet âge-là, elle était en secondaire, quoi, 3, quelque chose comme ça. Elle retournait à la maison, puis elle disait, « Hey, je veux faire l'école à la maison. J'ai rencontré 3 gars qui font l'école à la maison. » Mes deux frères, c'était super le fun, ça a l'air le fun, je peux-tu faire ça? Je veux faire ça. C'est pareil, on dit non. Elle l'a jamais fait. Donc, c'est comme j'ai mis le morceau de gâteau au chocolat, mais elle l'a jamais mangé, là. Ou la pomme, là, en tout cas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait changé dans sa vie si elle avait fait l'école à la maison. Aujourd'hui, est-ce qu'on s'en sort comme individu? Je peux m'asseoir avec vous, ma femme, puis dire, moi, lequel de nous deux est le meilleur? C'est pas important. C'est pas cette évaluation-là de plus et de moins. Il y a des choses qu'elle a eues de l'école, des difficultés, des choses positives, etc. Et moi, j'ai un bagage différent qui vient de l'école à la maison. Les écueils possibles... Est-ce que c'est des écueils qui sont proprement reliés à l'école à la maison ou des écueils qui sont proprement reliés au système scolaire? C'est pas une question qui est facile à répondre pour être 100% honnête. Parce que si je pense, par exemple, à bon, qu'est-ce qu'on va voir comme un désavantage à l'école à la maison ou les questions qu'on se pose souvent? Le diplôme d'études secondaires. OK. Il n'est pas toujours facile à obtenir en faisant l'école à la maison. Il faut souvent faire des détours, faire etc. Bon, bien, il y a des écoles à Montréal qui ont 40 % de taux d'échec. Est-ce qu'il est facile d'obtenir le diplôme d'études secondaires en allant à l'école? Non. OK. Donc, est-ce que c'est vraiment un écueil propre à l'école à la maison ou c'est un écueil propre à l'enfant? Est-ce que c'est parce que l'enfant, finalement, qui a un profil qui ne terminera pas le secondaire? Est-ce que c'est propre au système dans lequel je l'ai mis ou il y a tout un paquet d'autres facteurs? OK. C'est un petit peu comme si je regarde, c'est faire des corrélations inappropriées finalement. Donc dans les années, je sais pas, on va dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le tabagisme a augmenté et il y a eu un baby boom. Et il y a eu plus d'avions. Et il y a eu plus de nourriture en boîte et le prix du gaz a augmenté. Donc, le prix du gaz fait que les femmes ont plus de bébés. Vous voyez, la mauvaise corrélation, on peut faire exactement la même chose par rapport à l'école à la maison ou par rapport à l'école publique, et c'est souvent ce qui est fait. Si vous faites l'exercice que je vous ai fait au début puis que vous êtes très, très, très objectif, l'autre qui ressort souvent, c'est au niveau de la socialisation. Si c'est un sujet sur le... parce que ça ressort beaucoup, essayez d'écouter mon atelier de l'année passée. J'ai fait un atelier juste là-dessus. Bien, je vous donne le scoop juste en partant. J'ai fait une grosse distinction entre la socialisation ou le manque de socialisation, ce qui est un des points pour lesquels on critique négativement l'école maison, à tort, versus l'isolement social. Okay? Donc, la socialisation, c'est la capacité d'apprendre comment me comporter en société. Donc, la réalité prouve qu'au contraire, en moyenne, les gens qui font l'école à la maison s'en sortent mieux. Parce que tu apprends à socialiser. Qui fait du sport ici un peu, les gars, vous avez fait du sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport?
Basket, ça fait.
OK, si moi je veux apprendre à jouer au basket, est-ce que tu vas me conseiller de jouer avec quelqu'un qui est meilleur que moi ou moins bon?
Meilleur.
Donc, l'enfant, si on veut qu'il socialise, donc qu'il apprenne les normes sociales et comment se comporter en société, il va apprendre mieux s'il est avec un adulte. Donc, les gens qui font l'école à la maison socialisent plus avec des adultes, donc s'en sortent mieux plus jeunes, etc., au niveau de la socialisation. L'isolement social, c'est une autre histoire. Et souvent, les gens qui vont critiquer l'école à la maison, ils vont dire « Ouais, ben qu'est-ce que tu fais de la socialisation? » Mais c'est pas la socialisation qui veut dire, c'est l'isolement social.
Peux-tu faire un petit clin d'œil?
Absolument.
À la table, quatre familles, je fais ça vite, quatre familles avec des enfants à table, mes enfants, mes leurs. Puis justement, la fameuse question socialisation, je dis « Faites juste regarder qu'est-ce qui se passe à la table. » Fait que leurs enfants, ils étaient comme ça sur l'ordinateur et mes enfants avaient des discussions avec les parents sur certains sujets. Parce que...
Mais écoute, mes enfants me disent la même chose parce qu'on va à l'église. Il y a eu une époque où il y avait plus de familles. Je vais en même église que Pat et Sylvie Boileau. Puis dans cette génération-là, à un moment donné, il y avait quelques familles. Là, moi, je suis pas mal tout seul. Mes enfants sont à l'éducation chrétienne. Puis mes gars, ils disent « Papa, personne ne parle. Ils sont tous infimes avec les... » Bon, moi, je leur permets pas. Puis de toute façon, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux autres, ils vont à l'église, ils veulent jouer avec des amis, ils veulent parler, ils disent, ben là, mes amis, aussitôt que la réunion est finie, ça s'essuie avec le bidule. Mais ça, c'est des enfants socialisés. On s'entend. Donc, l'isolement social, c'est une réalité de l'école à la maison. Okay? On ne se le cachera pas, c'est une réalité qui, dépendamment de votre contexte, vos enfants peuvent le vivre. Bon. Je ne vais pas tout vous redonner mon atelier de l'année passée, mais j'en fais une petite capsule. Ça va dans les deux sens. Moi, j'ai quatre enfants, ils n'ont pas tous le même profil de besoin d'interaction sociale. Okay? Puis je ferai le tour de la classe ici. Selon votre type de personnalité, votre besoin d'interaction va varier. Et là, je vais appliquer ce que ça se traduit pas, fait que je vais le dire en anglais, vous allez comprendre. On a la notion de « one size fits all » et « one size fits none ». Okay? Donc, ça fait à tout le monde ou ça fait à personne. Donc, je mets mon enfant à l'école, il est d'une classe de 30. Donc, il y a certains enfants qui tripent au bout dans ce niveau d'interaction sociale-là. Il y en a pour qui sont en overload, c'est trop. Okay? Il y a des enfants qui, pour eux, d'être à la maison avec leurs deux parents, leurs deux frères et sœurs, puis leurs voisins qui voient une fois par semaine, puis les amis à l'église, pour qui c'est suffisant. Donc, la mesure de c'est quoi qui est assez d'interaction sociale versus pas assez. Il y a eu une cause aux États-Unis il y a plusieurs années où un petit auto là, a foncé dans une clôture d'un champ agricole, puis le cheval est tombé sur le toit de l'auto. Le toit de l'auto a renfoncé puis a écrasé le passager. Ils ont actionné la compagnie, le fabricant d'auto. Puis le juge a dit « Oui, mais le toit, il est supposé d'être solide comment? » Parce que s'il est assez solide pour faire un cheval puis que c'est un éléphant qui tombe dessus... Donc, cette mesure-là, on l'applique comment? Donc, comment on détermine c'est quoi le niveau de socialisation approprié? Et ça, c'est un avantage, l'école à la maison, parce que vous avez le contrôle. À l'école, tu n'as pas le contrôle. Donc, moi, mon enfant, pour qui un groupe de 30, une récré avec 300, 2000 ou 4000 élèves, dépendamment de l'école, ou... Là, il développe des troubles anxieux, il panique, il ne veut plus aller à l'école, il n'a plus le goût d'apprendre parce que lui, il ne comprend pas ce que le prof a dit, mais il est trop gêné pour lever sa main en classe. Donc, toute cette dynamique-là, ça, c'est relié à l'interaction sociale. Puis ça fait partie de la personnalité de l'enfant. Est-ce qu'on est capable de le changer? Non. Donc, pourquoi on a un taux d'échec à l'école? Grosse partie est basée là-dessus, sur le type d'apprentissage, le type d'interaction sociale que l'enfant est prêt à avoir. Et à l'école, on n'a pas le contrôle là-dessus, à moins que tu mettes ton enfant dans une école privée ou c'est des plus petites classes, des plus petits groupes, mais c'est très, très, très difficile. On ne se le cachera pas, là. Si vous vivez au Québec et vous faites partie du commun de la société, on n'a pas accès à adapter le système scolaire aux besoins spécifiques de chaque enfant. Même si, objectivement, parler à certains enseignants, une grande partie d'enseignants vous dirait c'est ça qu'il faudrait faire, mais on n'a pas la capacité socialement de le faire. L'école à la maison, on l'a beaucoup plus. Encore faut-il le faire. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Encore faut-il le faire. Parce qu'on peut faire exactement le même modèle à la maison qu'on fait à l'école. On fait du one size fits all pour nos trois enfants. Et il y en a un pour qui ça marche bien, un pour qui ça marche moyennement bien, puis un pour qui ça marche pas pantoute. Donc ça, s'il y a une chose qui est un pilier de l'école à la maison, c'est que je l'adapte à chaque enfant. De la même façon que comme parent, il faut qu'on s'adapte un peu à chacun de nos enfants. Ça ne veut pas dire que chaque enfant a un set de règles différents, mais la manière que je traite mon enfant, chacun a leur personnalité, etc. Je regarde, par exemple, ma fille a su des cours de chant, a su des cours de violon. Elle a monté sur un stage devant 300 personnes. Bon, elle est nerveuse un peu, mais ça la drive, elle aime ça au bout. Mon gars, je lui demande de faire ça, il va aller se cacher en dessous de son lit. Ben, pourquoi je le forcerais au-delà? OK, je vais travailler ça là-dessus, mais pas de la même façon que ma fille pour qui c'est une force. Si je les mets à l'école, les deux vont avoir le même traitement. Donc, l'exposé oral devant la classe va s'appliquer autant à un comme à l'autre. Mais le niveau d'anxiété provoqué ne sera pas le même du tout. Là. Il va y avoir une énorme différence. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait être une grosse considération, un avantage dans l'école à la maison et un écueil possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un automatisme. Le fait qu'on fait l'école à la maison, ça ne veut pas dire qu'on va s'adapter à chaque enfant. Ça, il faut le faire volontairement, il faut le regarder. Faut être capable de dire, bon, mais lui, il a tel besoin, comment je les rencontre? Mon autre enfant, il a tel besoin, comment je les rencontre? Donc, même en le faisant à la maison, faut quand même être un peu spécifique. Et peut-être que j'ai un enfant qui a un déficit d'attention, ou qui a un trouble d'apprentissage, ou qui a un trouble du langage, puis je vais être obligé d'aller chercher de l'aide extérieure. Ça peut faire partie de notre dynamique aussi. Comme je vous dis, si vous pouvez juste partir d'ici en étant moins polarisé sur bien, tout ce qui est le système, c'est pas bon, puis tout ce qui est école à la maison, c'est bon, c'est déjà ça de gagner. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a toujours cette espèce de notion-là, oui, mais l'école a beaucoup plus de ressources. Bon, ça peut être vrai, ça peut être faux. Je vais prendre l'exemple des services d'audiologie, là, speech language. Mon enfant, il y a un trouble de développement de la parole. Commence en maternelle, première année, tu te rends compte, ça va pas trop bien, on va faire évaluer, etc. Ça va prendre un an, deux ans avant qu'il voit quelqu'un. Bon, on vient de perdre une grosse fenêtre. Si tu veux qu'il voit quelqu'un, tu vas aller au privé. Même chose que tu feras à la maison. Donc, la notion de dire que parce qu'il est à l'école publique, il va automatiquement avoir toutes les ressources qu'il a besoin, c'est vrai dans certains cas, pas dans tous les cas. À la maison, ça va être la même chose. Il ne faut pas se dire, ah ben là, je suis un super parent, je n'ai pas besoin de professionnel jamais pour aucun de mes enfants. Ça non plus, c'est pas vrai. Donc, les énoncés parapluies qui couvrent tout, ça, c'est un écueil. Okay? Et c'est un des gros écueils, que ce soit par rapport à l'école publique ou au système, ou par rapport à l'école à la maison. C'est nos énoncés absolus présentent toujours des risques énormes. Je vous ai parlé un petit peu de l'isolement social par rapport au père, c'est-à-dire les autres enfants, etc. Il y a ce risque-là en général. Et je vous le présente comme... c'est l'envers de la médaille. Qu'est-ce que je m'enlève? Je reviens à ma liste du début. Qu'est-ce que je m'enlève en faisant l'école à la maison? Ou qu'est-ce que je m'ajoute? Bien, je m'ajoute le contrôle sur les interactions sociales. Bon, moi, cette année, on a décidé qu'on envoyait les enfants dans les scouts. Parfait. J'ai fait ce choix... C'est un soir ou deux par semaine, une fin de semaine ici et là. Je n'ai pas le contrôle sur les autres enfants qui vont là. OK? Donc, je viens de m'ouvrir, je viens de perdre un peu le contrôle que j'avais en les gardant juste à la maison. C'est correct, j'en suis conscient. Bien, sur mes quatre enfants, il y en a un qui a vécu de l'intimidation au scout. Ah, OK. Par contre, j'ai encore le choix de dire, bien, est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il ne continue pas? Si ça t'arrive à l'école, ce choix-là, il est difficile. Change mon enfant d'école, le choix est plus difficile. Ou je peux choisir de, ben, parfait, comment je vis ça, je l'adresse, etc. Par contre, qu'est-ce que j'ai gagné avec les scouts? Ben, j'ai gagné de l'interaction sociale, j'ai gagné des sports. J'ai aussi gagné d'autres adultes importants dans la vie de mes enfants. Et là, cette image-là, c'est ça que je veux que vous reteniez. Un des écueils possibles de l'école à la maison, c'est que les parents et surtout la maman devient l'adulte principal qui est au centre de la vie de l'enfant. Et c'est déjà le cas, hein, parce que vous donnez naissance, la plupart du temps, la maman est plus là lorsque l'enfant est jeune. Et t'envoies ton enfant à l'école, il y a une certaine séparation qui se fait, et tout de suite, il y a des adultes significatifs avec lesquels votre enfant s'attache. On garde l'enfant dans la famille, il y a des avantages énormes à ça, justement au niveau de l'attachement, au niveau de la sécurité de l'enfant, etc. Moi, des fois, je suis assis avec Stéphanie, ma femme, puis on se dit, « Mais nos pauvres enfants, ils vont tous avoir nos défauts. » Bien, c'est un peu vrai, hein, parce que c'est nous qui sommes les principaux agents de socialisation chez nos enfants. Si on s'en sort pas, vos enfants, ils vont copier nos défauts et nos qualités. On n'a pas énormément de contrôle là-dessus. Par contre, le contrôle qu'on a, c'est de réaliser que on n'est pas sur une île, ni nous comme parents, ni nos enfants. Et si je reviens à ce que j'ai dit au début par rapport au forum puis au lien que j'ai fait avec des gens avec qui j'ai grandi, puis tu sais, on se parle encore par texte ou même des fois j'en appelle certains. Puis quand on parle de ça, on se dit bien, les gens qui s'en sont sortis le mieux à l'adolescence, c'est parce qu'il y avait d'autres adultes significatifs dans leur vie. Et ça a été un facteur super important. Moi, je regarde ma vie. Écoute, j'avais des oncles qui j'étais proche. J'ai voyagé un peu. Je me suis lié avec d'autres adultes. Donc, quand tu arrives au niveau de ton développement comme adolescent, que tu aies la phase rebelle ou pas, c'est un détail. C'est pas un détail pour le parent, là, mais si on regarde la courbe de développement, c'est juste une façon que l'enfant va l'extérioriser. Mais tôt ou tard, votre adolescent ou votre enfant là, qui est super cute à 6 ans, il va devenir adolescent, il va avoir une distance qui va se créer avec vous, il va créer son identité, etc. Puis, il va commencer peut-être à être un peu plus critique des choix que vous avez faits et des décisions que vous avez prises. Et c'est là qu'on a des écueils possibles. Bien là, il y en a un peu partout, là, mais c'est une phase critique. D'avoir des adultes significatifs avec lequel votre enfant est attaché, ça va vous sauver la vie. Oui.
Juste pour exposer ça, les personnes d'influence extérieure, as-tu une idée hors de grandeur, si tu vas en avoir 2, 6, 10, c'est selon évidemment l'enfant, son besoin, parce que moi, on en a quelques-uns, 3 ou 4, on sait toujours ce qu'on veut qu'ils goûtent à d'autres choses que juste nous, c'est pas d'essayer de les cocooner, ouais. De dire notre petit vase clos est l'endroit unique au monde pour que l'enfant grandisse. Là.
As-tu une grandeur? On va éviter ça. Le toit du char, il faut qu'il soit solide comment? C'est une très, très bonne question. Je te dirais, tu ne peux pas le choisir pour ton enfant, par exemple. Moi, je peux juste donner l'opportunité. Donc, je vous dirais, la réponse à ça, c'est donne-lui suffisamment d'opportunités pour qu'il soit capable de s'attacher à d'autres adultes. Mais je ne peux pas le forcer. Je ne peux pas dire... Tu sais, si on regarde, mettons, puis je trouve que c'est un organisme qui est super le fun, là, grand frère, grande sœur, whatever, mais l'enfant, il ne choisit pas. Hein? Tu sais, mettons, moi, je le recommande des fois pour certains patients parce que tu sais, la mère est monoparentale, il n'y a pas de figure masculine pour le petit gars, etc. On dit inscris-toi à ça. Mais le pairing, il se fait de façon. C'est mécanique. Tu sais, c'est une liste, puis on regarde des aptitudes sur papier, whatever, là, mais ça se fait pas de façon naturelle. Mettons, moi, je regarde mes enfants, je les ai mis au scout. Bien, ils se sont liés chacun avec un éducateur différent. Ils les connaissent tous de façon égale. Donc, moi, j'ai simplement mis l'opportunité, mais le lien s'est fait avec un plus qu'avec l'autre. Je regarde à l'église, j'arrive, je regarde à l'église. Ils sont pas tous en lien avec les mêmes adultes. Pourtant, ils ont tous eu, tôt ou tard, le même prof d'école du dimanche, par exemple, mais il y en a avec qui ça clique ou ça clique moins. Donc, je pense que la réponse à ça est plus pas d'avoir un nombre d'adultes suffisant, mais d'avoir un nombre d'opportunités suffisantes.
Est-ce que les parents de leur programme vie, école, maison, font partie de l'adulte de référence?
Oui. Des autres parents. Oui. Ouais. Donc, encore là, on est dans l'opportunité. Hein? L'important, c'est qu'il y ait ce cercle-là, qu'il y ait ce contact-là. Donc, toute la question de contact social ou d'isolation sociale, c'est pas juste au niveau de leur père, c'est au niveau des autres adultes significatifs. Et je vous partage mon expérience de scout, là, mais ça a été quand même intéressant aussi cette année d'avoir ce contact-là dans un contexte qui n'est pas l'Église ou qui n'est pas d'autres familles chrétiennes. Parce que là, les enfants, ils reviennent. Moi, je suis pas un adepte de dire « mon enfant, je vais l'envoyer à l'école parce qu'il faut qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde ». J'y crois pas pour l'âge de nos enfants. Ça peut arriver. Il y en a chez qui ça s'est produit, mais généralement, c'est plus l'inverse. Okay? Par contre, il y a une réalité où mes enfants, je veux qu'ils soient conscients qu'on est une minorité. Okay? Et que ce qu'on vit au niveau de notre foi dans notre province, c'est pas super bien vu, c'est pas super accepté. Oui, c'est contre-courant. Puis je veux pas qu'ils se réveillent à 18 ans en mettant un pied au cégep ou à l'université et qu'ils disent « My, tout le monde n'est pas comme moi! » Parce qu'ils ont passé leur vie avec uniquement des gens comme eux. Donc, une partie de cet apprentissage-là que je dis « Bien, parfait, on va le faire ensemble. » Donc, on en discute, on parle aux scouts, ils vont pour une fin de semaine de camp. « Hey, bien, j'ai parlé de ci, de ça, etc. » Puis, on le vit ensemble, là. C'est super positif, mais il faut qu'il y ait ces opportunités-là. Et là, je vous mets la petite photo du parent hélicoptère. Il faut dégager aussi à un moment donné. Moi, j'ai fini le secondaire, j'avais quoi, 15-16 ans. Je suis allé faire un stage quelques mois aux États-Unis. Après, je suis allé enseigner en Russie. J'enseignais l'anglais un an à Moscou. J'étais dans une organisation, mais je suis parti de la maison. J'ai été un an pas chez moi. Même encore aujourd'hui, j'en parle avec mes parents, puis ma mère dit « Ça avait été juste de moi, tu serais jamais sorti de la maison. » OK? Donc, ça a pris papa pour équilibrer, dire « Non, regarde, il est rendu à 16-17 ans, c'est correct? » Faut, il s'en va pas avec son backpack, là. C'est quand même encadré. Et ça, c'est important. Comment on le fait? À quelle dose? Bien, encore là, les gens à qui je pense en grandissant qui ont eu le plus de difficultés, c'est des parents. Ça a été une erreur. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à donner assez de distance. Peut-être parce qu'un de leurs motifs primordiaux de faire l'école à la maison était basé sur la peur. Donc peur qui délaisse la foi, peur qu'ils apprennent des choses qui ne sont pas bibliques, peur qui est facile. Puis la liste des peurs s'ajoute au point où c'est l'enfant, il est attaché avec un harnais après l'hélicoptère, là. Okay. On a plus d'espace. Mais ça, c'est une erreur qui n'est pas propre à l'école à la maison. C'est une erreur qui est propre à un type de parent. Okay? Sauf qu'il y a certaines erreurs. Okay? Un parent qui est comme ça, puis son enfant est à l'école, excusez l'expression, mais c'est l'enfer pour cette école-là. Parce que c'est un parent qui va écœurer les professeurs au bout, qui va toujours être « Ah, mais là, si, si. » Bon. Mais il y a une certaine distance qui va se créer parce que l'enfant, il s'en va à l'école à tous les matins. OK? Mais ce parent-là, en le faisant à la maison, donc, puis c'est pas, regarde, comme je vous ai dit, on choisit pas la personnalité avec laquelle on est. Là, ma mère est hyper contrôlante, je vais chez eux, c'est merveilleux, le lait, il est à la même place dans le frigidaire qu'il était il y a 30 ans. Il y a des choses super positives à ça, mais il y a des risques aussi. Alors, je parle jamais de lait. Tu peux aller la nuit, les yeux fermés dans le frigidaire, tout est encore à la même place, c'est super. Mais la notion de contrôle, donc pour ma mère, si mon père n'avait pas été capable de l'équilibrer, puis là, chez nous, c'était ma mère et mon père, mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est la mère qui a besoin d'équilibrer le père là-dedans. Je ne suis pas sexiste du tout là-dedans. Là, je rencontre des pères qui sont deux fois plus anxieux puis hyper protecteurs. Le manque d'équilibre, c'est définitivement quelque chose à être alerte quand on fait l'école à la maison, parce que c'est une opportunité où on se crée notre petit sac fermé. Donc, l'idée de donner de l'autonomie puis du pouvoir à nos enfants, super important. Ça, c'est un gros défi. C'est un gros défi qui... OK, l'école à la maison, c'est ça, puis le reste, c'est tout ça. OK? Le « nous » et le « eux », là. Le noir et le blanc, le... Bon, il y a une partie de ça qui est réelle, on ne se le cachera pas. Est-ce qu'on doit le renforcer chez nos enfants? Faut y faire attention. Parce que ce que j'ai vu qui est arrivé chez beaucoup, c'est que, rendu à l'âge adulte, ils s'en vont là. Et là, je parle de la perspective de l'école à la maison, je parle de la foi, je parle de leur approche envers la relation, envers les parents. Si on élève nos enfants dans un mode très, très, très polarisé, le risque, c'est qu'à un moment donné, ils vont changer de pôle. Okay? Si tu as une approche qui est plus nuancée, il y a des chances qu'ils vont maintenir et qu'ils vont être capables de vivre avec des nuances. Et pourquoi les nuances sont importantes? Bien, parce que pas tout est blanc et noir. Okay? Donc, On pourra se parler de nos expériences d'école à la maison, mais si tu me parles de mon expérience d'école à la maison, c'est pas tout positif. OK? Et si tu m'en parles comme parent, c'est pas tout positif non plus. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des défis, il y a des journées où je m'arrache les cheveux, beaucoup. Beaucoup. Puis il y a d'autres journées où je dis, mais je voudrais pas vivre différemment avec mes enfants. Puis c'est correct, ça. Qui vit pas ça au travail? Des journées où j'aime ma job, je me dis, mais je suis tellement content de ce que je fais. Puis il y a d'autres journées où ça, quand est-ce que je prends ma retraite? Et ça fait partie de la vie, d'être capable de vivre dans les nuances. D'être capable de dire, mais je suis capable d'aimer mon père et d'être fâché après en même temps? Ben oui. C'est pas blanc et noir. Donc, ça, c'est un apprentissage qui est important et que souvent, j'ai donné un autre atelier à un moment donné à des leaders sur l'école maison. Puis le thème, c'était, je l'avais dit en anglais, je vais essayer de le traduire. Je vais vous le dire en anglais. Do not sacrifice your child on the altar of homeschooling. Mm-hmm. OK? Ne sacrifiez pas votre enfant sur l'autel de l'école à la maison. Et je parlais à un groupe de leaders. Et puis ça peut être la même chose par rapport à nos implications dans l'Église ou à n'importe quoi, c'est que la cause devient plus grande que l'individu. Je crois tellement que l'école à la maison, c'est le chemin, la vérité et la vie, que je ne serais pas capable de voir la réalité en face. Et même si ça va mal, ça va toujours bien. Puis même si mon enfant, il coule, c'est pas grave, il coule pas, c'est juste un petit retard. Non, il va pas bien, ton enfant. Il est dépressif, puis il écrit des notes suicidaires à ses amis, mais il veut pas t'y montrer parce qu'il sait que toi, t'es là. OK? Donc ça, là, c'est une dynamique qui est réelle, autant avec l'école à la maison que d'autres choses, mais faut comprendre que on se polarise un peu en faisant l'école à la maison. Okay? Si vous êtes chrétien au Québec, vous faites déjà partie d'une minorité. Si vous êtes chrétien et que vous faites l'école à la maison au Québec, cette minorité-là, là, ouf, elle devient infiniment petite.
Donc, c'est quand même plus petite que les non-chrétiens qui font l'école à la maison.
En fait, le nombre, c'est similaire. De familles qui font l'école à la maison, chrétiens versus non-chrétiens, ça se ressemble. J'ai peut-être un peu plus de chrétiens qui font l'école à la maison que de non-chrétiens au Québec. Qu'il y a plus de chrétiens? Oui, il y a un peu plus de chrétiens, mais il y a... C'est embêtant. Je vais être honnête, c'est pas facile de recenser le nombre réel de gens qui font l'école à la maison au Québec. Okay? Mais si on regarde juste au niveau de l'ACPEC puis de la KED, les chiffres se ressemblent. OK? Donc, si on dit que c'est représentatif de ce qui se retrouve dans la société, il y a peut-être... ce qu'on suspecte, c'est que dans les gens qui font l'école à la maison, il y en a qui c'est pas nécessairement chrétien, mais que c'est pour des raisons religieuses. Donc, il peut être une appartenance à une autre foi, qui on ne le sait pas du tout. OK? Parce qu'ils viendront dans aucune des associations, puis on n'a aucune idée, on ne peut pas les recenser. Mais, bon, on se situe dans une très petite minorité. Donc, en partant, là, vos enfants, ils vont vieillir un petit peu, puis ils vont se rendre compte qu'ils sont vraiment, mais vraiment pas comme tout le monde.
Combien d'étudiants sont dans l'école maison au Québec, tu parles, plus généralement?
D'étudiants ou de famille? Parce que ça va être deux chiffres très, très, très différents selon les générations, mais on parle de... Le guesstimate est peut-être de 600 à 800 familles au Québec. Okay.
Chrétiens
et non-chrétiens. Si je regarde au niveau des associations, on a peut-être 500-600 familles, rajoutant un peu marginalisées chez communautés juives, musulmans, hindous, etc., qui peuvent, pour des raisons similaires aux nôtres, mais qui ne feront pas partie de nos chiffres. C'est pas beaucoup. Fait que même si on dit qu'on est des familles à 3 enfants, tu parles de quelques milliers d'enfants au maximum, là, sur 7 millions. Là. Donc, le pourcentage est tout petit.
Même avec le quota anglophone?
Oui. Oui, parce que, mettons, si je regarde les chiffres d'école à la maison, l'ACPEC est autant anglophone que francophone. Il y en a peut-être plus anglophones, oui, mais je pense pas que c'est significatif d'aller chercher. Même à la limite, là, si on se trompe et qu'on dit, bon, regarde, finalement, c'est pas 1000 familles, c'est 2000 familles. On est encore dans des très, très, très petits chiffres. Là, si on regarde, si on compare avec l'Ouest canadien, par exemple, là, L'année passée, je suis allé en Floride, puis juste une personne me dit « Ah, moi, mon enfant va d'une polyvalente, il y a 4000 étudiants. » Là-dessus, il y en a 500 que c'est des jeunes qui font l'école à la maison puis qui vont pour juste certains cours. Donc, tu vois que dans certains contextes, c'est pas du tout la même dynamique, puis ce risque-là est beaucoup moins grand. Ici, il est vraiment là. Je ferme la boucle, puis on va se laisser du temps encore plus pour discuter. Ça, là, c'est la clé. Être capable, là, de prendre un peu de recul puis de se réévaluer constamment. Pourquoi je fais l'école à la maison? C'est quoi mon but? Comment ça va? Comment ça va vraiment au niveau de ma relation parentale, etc.? Ce qui va nous éviter d'avoir des regrets. Puis, est-ce que ce que j'ai là, là, ça c'est le même morceau de casse-tête de la slide avant, il fait tout par rapport au but final? Okay? Moi, je vois mon enfant comment dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Écoute, si ce que tu veux, c'est que ton enfant est directement au cégep, tu vas peut-être avoir une approche par rapport au diplôme différent de l'autre qui dit « moi, je vais l'envoyer d'une université chrétienne en Floride ». Ok, donc, il y a toutes sortes de choses à plein niveau, que ce soit des trucs techniques versus le caractère, la personnalité de ton enfant qui va changer. La clé, c'est d'être capable de toujours prendre un peu de recul et de s'évaluer. Sinon, on tombe dans… On fait les choses, on travaille sur les comportements, on travaille sur la performance scolaire et on manque certains aspects. Une des choses que j'ai partagées en anglais ce matin, mes enfants sont participants dans la décision de faire l'école à la maison. Et je m'explique. Est-ce que c'est leur choix? Non. Est-ce qu'ils pensent que c'est leur choix? Oui. Mm-hmm. Je ne suis pas en train de vous dire que je les trompe dans ça, là, pas du tout. C'est-à-dire que s'ils me disaient demain matin « je veux retourner à l'école », on aurait une bonne discussion, là. Mais à chaque étape du processus, il y a quelques années, on est déménagé dans le nord du Québec, on est arrivé là, on a visité le village, etc. Ils font partie de la discussion de « bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans un village qui a 300 personnes, qui n'a peut-être pas d'église, qu'on n'a plus de famille, qu'on n'a plus d'amis. Le contact social, l'isolement, c'est des discussions que j'ai ouvertement avec les enfants. Ultimement, on a toujours choisi de faire l'école à la maison et c'est probablement ce qu'on va continuer à choisir. Si jamais on fait un choix différent… Bien, la réflexion avec mes enfants l'a toujours été là. Donc, ils ont grandi avec, un, la notion que c'est pas un absolu. Ton entrée au ciel dépend pas sur le fait que tu fais l'école à la maison. Ton succès dans la vie dépend pas de ça. Puis l'amour que j'ai pour toi dépend pas de ça non plus. Okay? Donc, tout ça, ils en ont fait partie. On est revenu du Nord, on a eu la même discussion, etc. Comme je vous dis, jusqu'à présent, on s'enligne comme ça. La journée que mon enfant me dit « Papa, je veux retourner à l'école », j'aurai une discussion, puis est-ce que je vais le laisser choisir? Je ne sais pas ce que je déciderai. Tu sais, si moi, à l'âge de 15 ans, hein, ça dépend des raisons, ça dépend il est rendu où, mais pour moi, l'important, c'est de faire partie intégrale de la discussion. Et ça, c'est une façon d'éviter que ton enfant à 17, à 18 ans, il ait des regrets, parce qu'il a toujours eu l'impression que c'est un choix imposé. OK. Oh my! Je pense qu'on est rendu, hein? Questions, commentaires? Je pense qu'on a posé un peu au fur et à mesure, mais s'il y a d'autres. Oui?
Juste, aurais-tu quelques pistes au niveau du caractère de l'enfant? Comment tu vois, au niveau du comportement, du caractère, comment tu t'y prends pour. Parce que dans l'action, c'est facile de focuser sur le comportement.
Oui, mais. Okay. Ça, c'en est un. Le feu de l'action, c'est une chose qu'il faut que tu le gères dans le feu de l'action.
Oui, c'est ça.
Tu n'as pas le choix. Okay? Si mon enfant est en train de frapper l'autre, initialement, je me dis pourquoi je vais arrêter l'autre de saigner. Okay? Bon, on va gérer le comportement. Ouais. On va arrêter le comportement. Je vais faire un retour. Okay? Je vais faire un retour, je vais le travailler. Tu sais, mon mari vieille, elle s'améliore en vieillissant, mais tu sais, j'ai une stimulité qui est. Péter sa coche, comme on dit en québécois. Là. Okay, mais jeune. Fait que, tout de suite, là, tu vois, OK, une petite fille qui a un tempérament, bien, ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle a ce tempérament-là. Parce que j'y ai dit, ah, ben, tu sais-tu, Vania, papa, il était pareil quand il était petit. Ah, OK. Fait que là, on s'assied, on en parle, on a ces discussions-là, pas dans le feu du moment. Et ça, c'est souvent la partie qui nous manque comme parents, c'est qu'on est toujours dans le feu du moment. Hein? Le feu de l'action, le feu sur le poil, les devoirs, le bain, le ci, le ça, l'école, le whatever. Peu importe ce qu'on fait, le hockey, le soccer, l'église, les amis, les... on est toujours en train d'agir, puis on ne prend pas souvent le temps d'arrêt entre parents. Fait que j'encourage à le faire, et on ne le prend pas beaucoup avec nos enfants. Moi, je le fais pas autant que je voudrais à chaque jour, mais pratiquement, là, j'ai un moment, là, un 10-15 minutes avec chaque enfant chaque jour où je regarde, mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Comment ça a été? Tu t'es-tu fâché? C'est quoi? Puis chaque enfant a ses défis particuliers. Puis je les passe en revue avec eux. Puis c'est comme... c'est leur moment privilégié avec papa aussi. Fait que j'ai développé cette ouverture-là, cette porte-là dans leur vie-là, que pour eux, c'est comme c'est le privilège, c'est leur moment de gloire avec leur père. Fait que c'est super positif. C'est sûr que ça demande du temps. Là. Je fais ça souvent au coucher, puis des fois, c'était fait, il est rendu 9h, là, coucher, là. Ouais, mais ils peuvent s'en passer du 10 minutes de sommeil pour ce qu'ils ont. Ils sortent en échange. Oui. Mais c'est comme je disais tantôt, le risque à la maison est similaire au risque à l'école. Tu sais, l'expression en anglais qui dit the squeaky wheel gets the oil, la peinture qui gringe, c'est celle-là qui reçoit l'huile. On peut faire la même chose dans nos familles, où l'enfant qui en demande le plus, ça peut être le bébé naissant, ça peut être celui de 8 ans qui est le plus explosif dans son comportement, peu importe, notre attention naturellement va aller vers là. Et puis si vous allez lire le « intentional parenting », ça va être un des points que vous allez lire, de dire « oups, faites attention à où est-ce que votre temps et votre énergie est siphonnée », puis d'être volontaire, de dire « oups, j'en néglige-tu un des trois ou des deux, peu importe, là ». Très bon point.
Donner le même temps à chacun?
Pas nécessairement.
Non, mais c'est sûr qu'il y en a une ou un qui donne, qui tire tout le temps plus, qui est tout le temps...
Pas nécessairement, parce que le besoin n'est pas nécessairement le même pour chaque enfant, mais c'est de s'assurer de ne pas négliger le besoin de l'autre. OK? Fait que, mettons, moi, si je regarde, je compare mes deux plus vieux, ma fille puis mon gars, tu sais, au coucher, ma fille, c'est comme, OK, elle parle 2 minutes, elle me donne un câlin, elle se couche, mais on va avoir des temps n'importe où d'autre dans le jour. OK? Mon gars, c'est vraiment le soir. Le soir, là, c'est mon temps avec papa, parfait, et bon. Ma fille, ça ne dérange pas que je prenne plus de temps avec lui le soir. Mais si elle n'a pas eu pantoute dans la journée, puis là, je compare vraiment des pommes avec des pommes, là, où on compare vraiment le temps de conversation, les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes, là, tu sais. Mais, je pense que c'est vraiment, je rejoins beaucoup ce que tu as dit, de chaque enfant a des besoins spécifiques, donc c'est pas nécessairement de dire, mais je donne la même mesure à chaque enfant, mais je rencontre le besoin de chaque enfant, aussi différent qu'il peut être, là, tu sais. Et voilà. C'est ça. Ouais. Ouais, puis les besoins sont différents aussi en fonction de la personnalité, du niveau de développement. Moi, mes deux gars sont dans la même chambre, donc sont très conscients du temps que je passe avec un puis avec l'autre. Il y en a un qui, le soir, il me parle. L'autre, bien, il en a moins à dire, mais il veut jouer avec moi. Bon, mais c'est correct, je vais jouer avec. OK? Donc, je vais aller rencontrer son besoin qui n'est pas le même besoin que l'autre. Parce que si je m'assieds avec mon plus jeune pour parler, OK, ben, de quoi qu'on parle? Puis là, après 2 minutes, bon, ben, t'as rien à dire, bonne nuit, je m'en vais. Ah, non, mais il y a un besoin, il faut que j'aille le rencontrer. Son besoin, c'est quoi? C'est de rire, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de sortir deux bonhommes. Tu sais, tiens, toi, papa, t'es lui, moi, je suis lui, OK? C'est beau, je vais être là. Quel bonhomme je suis à soir.
Merci.
Ben, c'est bon. Fait que merci de votre attention. Puis si jamais il y a d'autres questions qui vous venez.
Merci.
Ça fait bien plaisir.